explorer de nouveaux mondes étranges.
La Terre est là. La Terre est proche.
Descendez la voie !
Le temps d'un bivouac !
Comme tous les mercredis, nous retraçons le parcours d'un grand voyageur qui a marqué son époque. Aujourd'hui, c'est sur les pas d'une voyageuse que nous partons, Ella Maillard. Écrivaine, reporter, photographe, elle fait partie des plus grandes aventurières du XXe siècle. À peine sortie de l'adolescence, elle quitte sa Suisse natale pour prendre la mer d'abord, puis pour traverser les steppes et les monts d'Asie centrale à la recherche des nomades. Viendront ensuite la Chine, l'Afghanistan et l'Inde. Ce qui importe le plus à cette intrépide voyageuse au regard bleu intense et au caractère bien trempé, c'est la rencontre de l'autre, sous une yourte kirghize comme au pied des Bouddhas de Banyan. Rencontrer l'autre pour se découvrir soi-même, tel semblait être l'un de ses moteurs. Olivier Weber, écrivain et grand reporter, connaît bien les régions qu'a traversées Ella Maillard. 50 ans après elle, il a emprunté les mêmes chemins et décidé de raconter la vie de cette voyageuse devenue mythique dans une biographie intitulée « Je suis de nulle part » aux éditions Payot. Cet après-midi, Olivier Weber nous emmène sur les traces de celle que Paul Valéry surnommait « la femme du globe ». Cette émission a été préparée par Sophie Vaux avec à la réalisation Anne-Sophie Ladonne et Étienne Bertin, et à la technique Rémi Sistiaga. Soyez les bienvenus dans notre bivouac.
France Inter. Le temps d'un bivouac. Daniel Fievé.
Moi, je crois que l'environnement crée l'homme. C'est pour ça que les villes sont néfastes. Non, je suis privilégié d'avoir pu vivre en plein air. Et je crois que c'est dans les monts célestes au sable rouge où, pour la première fois, j'ai eu ce sentiment formidable. Notre camion qui nous amenait de Frunze jusqu'au lac Issyk-Kul avait une panne. Ce qui fait qu'au coucher du soleil, on était en plein bled, à mi-chemin entre Frunze et le lac Issyk-Kul, et on a dormi 200 mètres au bord de la route, à même le sol. Eh bien, il y a eu une tempête pendant la nuit. Je me suis senti donc à même le sol de l'Asie centrale et roulé par un grand vent de steppe asiatique, où j'ai senti ce contact avec la terre immense, l'Eurasie. L'Europe est une petite presqu'île dans une Asie immense. C'est affreux d'employer des mots qu'on fait partie du cosmos. J'étais trois fois rien, j'étais un grain de sable pensant.
La voix d'Ella Maillard, éprouver la terre et son immensité et se sentir grain de sable pensant, c'est la recherche de sensations qui ont conduit Ella Maillard, dès son plus jeune âge, à prendre la route, Olivier Weber.
Oui, bonjour d'abord, mais c'est vraiment une voyageuse incroyable parce que oui, c'est l'attrait de la route, c'est l'attrait de l'aventure, c'est l'attrait de l'exploration, comme vous le disiez, humaine, donc le goût des autres, aller voir les autres et aller voir tout simplement. Mais c'est en même temps quelque chose de très simple et je trouve même qu'il y a, dans ce qu'on entend par exemple là, les phrases que vous avez citées à l'instant, presque une démarche spirituelle. Et c'est ce qu'elle va trouver en fait au bout de décennies de voyage. Alors, il faut dire qu'au départ, puisqu'elle est née en 1903, elle part dès les années 20, en Asie centrale. Donc imaginez, donc c'est le fin fond de l'URSS d'alors, il y a encore des soubresauts, c'est aussi la Chine des seigneurs de la guerre. C'est l'Afghanistan qui n'a pas tellement changé, finalement. Finalement, entre ces années-là et aujourd'hui. Et imaginez surtout une femme qui voyage.
Souvent
seule. Chameau, avec des nomades, quelquefois en voiture, tout ce qu'elle peut trouver, en train, en bus, etc. Et j'ai trouvé que c'était une très très belle démarche parce que elle est encore d'actualité, on va dire. Vous lisez ses livres aujourd'hui, ils n'ont pas pris une ride, même si évidemment les villes qu'elle détestait au demeurant ont un petit peu grandi. Mais voilà, il y a toujours cette démarche très très saine. C'est elle-même qui disait cela, il faut apprendre la vie saine avec les autres. Donc ce contact charnel avec la terre, avec les autres, avec la tente, avec la yourte des Mogols, etc. Et donc c'est d'actualité, effectivement.
Alors vous êtes parti, vous, hein, Olivier Weber, sur les traces d'Ella Maillard. Vous avez écrit sa biographie, vous l'aviez fait pour d'autres grands aventuriers comme Joseph Kessel ou Jack London. Ella Maillard, elle est de la trempe d'un Jack Kessel, d'un Jack London.
Oui, absolument.
Elle est moins connue pourtant.
Elle est moins connue, absolument. Ils se ressemblent. Elle n'a pas eu le côté romancier-romancière qu'avaient Jack London et Joseph Kessel, voire Joseph Conrad, mais c'est de la même trempe des aventuriers et des aventurières, hein, même pas m'a donné de singulier pour cette classe-là, et ça fait partie d'une tribu en quelque sorte, et je dirais que si Ella Maillard avait mis en roman, en fiction, ce qu'elle avait ressenti, non simplement vu, mais aussi ressenti. On aurait eu des grands romans, etc. Mais je dirais presque qu'elle était plus loin que Joseph Kessel et Jack London, parce que vraiment, elle est allée dans des contrées, encore une fois, inexplorées, ou pratiquement inexplorées, quasiment vierges. On va encore aujourd'hui de moins 40 degrés à plus 45. Je peux vous dire que j'ai éprouvé ces deux températures-là dans ces régions, jusqu'en Sibérie et en Asie centrale et en Afghanistan. Eh bien, elle y allait quand même. Et donc, c'était un côté baroud, mais peut-être pour se prouver quelque chose, c'est certain. Mais à la fin, on arrive, pas simplement au soir de sa vie, même au milieu de sa vie, on va dire, dans les années 40 et 50, à cette démarche spirituelle. Et on peut la comparer à quelqu'un qui était un peu plus connu qu'elle, c'est Alexandra David-Néel, qui, elle, a vécu jusqu'à l'âge de 101 ans, qui est morte en 1969. C'est de la même trempe, et avec la même démarche spirituelle, peut-être avec un peu moins de connaissances des spiritualités compris orientales et bouddhistes de la part d'Ella Maillard, mais c'était une connaissance intrinsèque, presque implicite, on va dire.
Alors, elle est moins connue, mais quand même, dans le monde du voyage, elle en a inspiré plus d'un, et pas des moindres, notamment un certain Nicolas Bouvier, grand écrivain voyageur, qui l'a rencontré, ils sont même devenus amis. Je vous propose d'écouter Nicolas Bouvier raconter Ella Maillard.
C'était une personne très laconique. La première fois que je l'ai rencontré, c'était en 1952. Je me proposais de faire une route qu'elle avait faite quelques années auparavant et je voulais quelques conseils techniques. Et puis elle m'a dit, écoutez, partez, et puis si ça ne convient pas, revenez. Elle n'est pas allée plus loin. Alors je me suis donc passé de ses conseils, et puis de retour, alors on est devenus très très amis. Mais ce qui était l'origine de multiples pugilats, parce que Ella faisait du terrorisme anti-fumée, elle éteignait mes clopes à mesure que je les allumais, et moi je lui donnais des coups de pied dans les tibias. Et j'y ai usé mes chaussures, parce que c'était une dure. Ella était une personne extrêmement volontaire, mais elle manquait totalement d'humour. Et la terreur qu'elle inspirait aux journalistes était totalement infondée, parce que si les journalistes s'étaient moqués d'elle, ce qu'ils n'osaient évidemment pas faire avec cette dame pharaonique au regard d'azur, eh bien, devant l'humour, elle perdait pied.
Nicolas Bouvier racontant Ella Maillard, c'est très réjouissant de l'entendre raconter son ami. Alors vous, Olivier Weber, vous n'avez pas rencontré Ella Maillard, mais vous avez rencontré Nicolas Bouvier. Il en parlait, il vous en a parlé de la même manière.
Oui, mais par le plus grand des hasards, parce que j'étais en reportage à l'époque en Asie. J'arrivais de Thaïlande et j'étais à Singapour, et sur une colline, on s'est rencontrés grâce à une diplomate qui n'était pas française, d'ailleurs, qui travaillait pour l'ambassade de France de temps à autre. Et puis, je peux vous dire que la soirée était extrêmement bien arrosée. C'est difficile de le suivre, mais je l'ai trouvé d'une grande simplicité, évoquant Ella Maillard et évoquant justement ce voyage. Il est allé la voir timidement avec des cartes, et bien elle lui a déplié les cartes, et écoutez, il faut aller là, etc., il faut revenir, il faut repartir, etc. Et elle lui a raconté son propre voyage à elle, en Afghanistan, donc dans les années 40, on va peut-être en parler tout à l'heure, et voilà, voyage que j'ai fait maintes fois par la suite, y compris en à pied, à dos de chameau, à cheval et en bus ou autre moyen de transport. Et Nicolas Bouvier et Ella Maillard avaient beaucoup de points communs, outre le fait qu'ils étaient tous les deux Suisses. Il y a beaucoup plus de voyageurs qu'on ne croit dans ce pays qui n'est pas un pays hermétique, depuis Blaise Cendrars, etc. Et Nicolas Bouvier parlait d'Ella Maillard avec beaucoup d'affection et beaucoup de sensibilité. Je crois qu'il avait envie aussi, à plus jeune que lui, de donner le relais de transmission, de faire ce qu'Ella Maillard lui avait dit de faire, donc partir à l'aventure.
Rien ne prédestinait Ella Maillard à devenir une aventurière. Elle naît donc à Genève en 1903, dans une famille plutôt bourgeoise. Elle a raconté elle-même que petite, Elle était assez anémique, assez fragile, un peu souffroteuse.
Oui.
Puis elle s'est mise au sport.
Oui.
Elle s'est très haut
niveau.
Très grande sportive. Elle a fait les JO à la voile.
Oui, absolument. Alors ça peut peut-être prêter à sourire pour les auditeurs que de parler de la voile suisse. Mais oui, elle était représentante des Jeux Olympiques de la Suisse, donc en 1924 à Paris, pour les régates, pour la voile, puisqu'elle s'entraînait sur des petits cotres et des petits yachts, des voiliers, donc sur le lac Léman. Et elle était très très bonne donc navigatrice. Et elle est partie ensuite sur l'Atlantique. Elle est partie avec des amis assez jeune, donc à 20 ans et quelques, oui. Et même un peu avant d'ailleurs en Méditerranée, c'était un peu gonflé, elle est devenue amie avec Alain Gerbaud en particulier, et ensuite donc championne de ski et entraîneuse surtout dans les années 20 de l'équipe nationale de ski pour les championnats du monde. Donc c'était quelqu'un de nature chétive, d'origine bourgeoise, vous avez raison, son père était négociant en fourrure, d'ailleurs comme Belsandrars, mais qui était devenue, je trouve, en tout cas par ses écrits, relativement simple, et elle avait fait plein de petits boulots, elle était dactylo, babysitter, etc., était représentante de commerce, etc., et ensuite journaliste après, mais elle voulait voir un petit peu la couleur du monde à travers ses petits boulots en Europe et ailleurs.
La voile, ce sera son grand loupé, parce qu'elle avait envie de partir avec une amie d'ailleurs qui tombera malade puis se mariera, donc elle ne fera jamais ce grand voyage qu'elle voulait faire avec cette amie dans le Pacifique Sud, mais alors elle n'aimait pas exprimer des regrets, donc elle n'a jamais dit vraiment qu'elle regrettait, mais on sentait quand même qu'il y avait un rendez-vous manqué avec la mer, avec la voile.
Absolument, c'était la grande aventure qu'elles se promettaient toutes les deux avec Miette de Saussure, qui allait devenir donc la mère de l'actrice Delphine Seyrig, et puis elle s'interrompt, comme vous le disiez, à cause de cette maladie. Et oui, elle et la Maillard avaient la passion de la voile, mais c'est plus que la voile, hein. C'est comme Alain Gerbaud, la découverte, l'inconnu, le danger, le péril, le frisson de la mer, tout ce qu'on connaît quand on est un peu marin, etc. Et elle doit s'interrompt. Donc elle va trouver ses sensations bizarrement sur d'autres horizons tout aussi emplis de vagues, les vagues sablonneuses, qu'est l'Asie centrale et qui vont remplacer un peu ces horizons infinis de la mer.
Son premier grand voyage, c'est la Russie.
C'est la Russie. Alors c'est incroyable parce que vous parliez de ce rendez-vous manqué avec la mer. C'est un peu le périple du Jack London qu'il n'arrive pas à faire. Il doit faire le tour du monde puis il n'y arrive pas sur le Shark, hein, qui est un bateau de 15 mètres avec sa femme, donc Charmian. Or, Ella Maillard va rencontrer la veuve de Jack London, parce qu'il est mort en 1916, une surdose d'opium à 40 ans, malheureusement toujours trop jeune pour les surdoués et les grands talentueux écrivains. Et c'est Charmian, la veuve de London, qui va lui permettre, en lui donnant un petit pécule, d'aller jusqu'à Moscou ailleurs pour faire ses premiers reportages. Et ça va devenir parmi la jeunesse russe, qui sont des écrits d'époque, on va dire. Ouais,
elle saisit donc la première occasion pour partir, comme elle le raconte à cette journaliste qui profite au passage des réponses assez tranchantes d'Ella Maillard.
Vous avez eu un contact très privilégié avec les jeunes russes, en fait. Vous avez eu beaucoup de chance.
Ben, beaucoup de chance, je l'ai cherché, la chance. J'ai pas été dans le club chic, le Dynamo, où étaient tous les ambassadeurs et leurs employés. J'ai cherché le syndicat de l'alimentation, les Pisseviki. J'ai fait partie de leur section d'aviron. Et comme ça, je me mêlais à la vie russe, c'était essentiel. À ce moment-là, il faisait une chaleur terrible en Russie, c'était le mois juillet-août, et j'ai cherché à partir dans le décor, d'aller le plus loin possible, en Sibérie ou n'importe où. Et il y avait un départ d'étudiants russes qui partaient pour le Caucase. Alors je me suis joint à eux, et pendant 4 semaines, on s'est promené à pied au Caucase, on a traversé un col de 3600 mètres, avec des petits sacs de couchage en coton, grelottait la nuit, on avait des rucksacks démodés. Mais enfin, c'était intéressant de voir ce Caucase. Et c'est là que j'ai senti la présence proche de l'Asie centrale.
Olivier Weber, c'est le début et ça ne s'arrêtera jamais. C'est son premier grand voyage. Elle prend le virus, elle découvre ces peuples qui vivent, les nomades notamment aussi. Elle a un grand attrait pour les peuples nomades qui parcourent ces territoires.
Tout à fait. Alors un peu plus d'ailleurs que pour la Russie, donc le Caucase, que le Caucase, c'est le Caucase musulman, le Caucase chrétien, le Caucase de ces 400 dialectes dont parlait déjà Strabon au temps des Romains. Et elle va se fasciner pour cet Orient-là. C'est le début de l'Orient, hein, un peu à la frontière, la lisière de l'Union soviétique d'alors, et puis de la Perse et de l'Asie mineure, de la Turquie, etc. Donc elle se passionne, elle se dit j'y reviendrai. Là, on est en 1930, elle est encore assez jeune, elle a donc 27 ans. Et puis elle s'aperçoit que finalement, les piges, comme on dit en journalisme, ça marche. Bon, à l'époque, évidemment, le Petit Parisien et autres grands journaux français ou d'Allemagne tiraient à jusqu'à 1 million d'exemplaires. Et ça lui permet de repartir assez vite, cette fois-ci sans l'aide de la veuve de Jack London. Et elle va se passionner pour cet Orient, mais elle va se dire je vais aller un peu plus loin, je vais aller un peu plus vers l'Est, vers l'Orient, vers la Chine, etc.
Bien d'autres voyages suivront, à la rencontre des autres, à la rencontre d'elle-même, en quête d'équilibre et de spiritualité. Olivier Weber nous emmène sur les pas de l'une des plus grandes aventurières du XXe siècle, Ella Maillard, le temps d'un bivouac, sur France Inter.
Cherchant notre chemin, on s'était arrêté dans une ville éventrée, le monde s'embourbait dans les rues encombrées, poursuivis par des averses sans fin. Vite, nous nous sommes engouffrés dans une bouche de métro édentée, un escalator mécanique désarticulé. On se pressait dans la mêlée sans s'entendre ni se parler. Entre deux souffles, nos sens à l'affût désorientés, on a suivi le flux, 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 flux. Le flot flou de la foule, 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 le flot flou de la foule. Comme un intestin, on a suivi les gens dans l'air moite, le fracas, tout devenait flippant. À coups de pelle mécanique frénétique, les bulldozers au-dessus nos têtes défonçaient les chaussées décrépites, ignorant les frêles, les mous, les neurasthéniques. Les flics semaient le chaos avec leur sirène américaine. Entre deux souffles, nos sens à l'affût désorientés, on a suivi le flux, le flot flou de la foule, 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 le flot flou de la foule. Sur un panorama, il se profilerait lentement sur les crêtes, les sommets. Un soleil bien jaune étincelant qui nous aiderait à tenir verticalement. On marchait de travers en cherchant l'air pur, la lumière. Entre deux souffles, nos sens à l'affût, on a trouvé l'issue. On s'est éloigné du fil. Le flou flou de la foule, 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 le flou flou de la foule.
C'était Françoise Breu qui chantait « Dérive urbaine dans la ville cannibale » dans le temps d'un bivouac sur France Inter.
Alors, l'immensité de l'Asie par rapport à l'Europe, qui est quand même une très petite chose. Et puis, des idées farfelues, se dire « Tiens, mais Marco Polo a fait tout ce voyage-là au XIVe siècle, eh bien, pourquoi est-ce que je ne ferais pas ce même voyage et que je continue jusqu'à Pékin ?» Et comme la frontière était fermée, il y avait la guerre civile, j'ai dit « Bon, ben, si une fois je vais à Pékin, je ferai le tronçon qui me manque dans le sens contraire. » Alors, en 1934, le Japon croyait qu'il allait pouvoir envahir la Chine et devenir une grande puissance. Et je pars, j'ai passé 3 mois en Mandchourie, en 1934. Et puis je me trouve à Pékin, à Noël 1934. Et je prépare réaliser ce rêve d'autrefois, partir de Pékin et rejoindre mes traces à peu près à la frontière du Turkestan russe pour faire tout ce voyage formidable de Marco Polo. Alors tout ça, c'était des raisons de vivre en attendant d'avoir des réponses aux questions fondamentales.
En attendant d'avoir des réponses fondamentales, Ella Maillard, attirée par la route de la soie en Asie centrale, sur les pas de Marco Polo. Olivier Weber, auteur d'une biographie d'Ella Maillard intitulée « Je suis de nulle part » aux éditions Payot. Vous la connaissez bien, cette route de la soie, on devrait dire ces routes de la soie que vous avez empruntées souvent. Par où passent-elles exactement ces routes ?
Bien, grosso modo, donc la route historique de Marco Polo partait de Venise pour finir en Chine, mais ça serait grosso modo la route de la Turquie d'aujourd'hui, de l'Iran d'aujourd'hui. Aujourd'hui, donc l'ancienne Perse. Et puis après, ça s'étiole, parce qu'évidemment, il y a un faisceau de routes commerciales. Et c'est grosso modo soit l'Afghanistan, soit plus au nord, l'Asie centrale, pour donc bifurquer ensuite sur la Chine. Mais finalement, ça n'a pas tellement changé, parce qu'au lieu d'échanger de l'or, du lapis-lazuli, de la damasquine de Damas ou de la mousseline de Mossoul, on échange aussi des tissus, de l'or, des pierres précieuses, plus du pétrole et des armes. Mais surtout, ce qu'a vu Ella Maillard, c'est grosso modo ce que la route de la soie produit encore aujourd'hui, c'est-à-dire de l'amitié. De l'hospitalité, ça peut paraître bizarre peut-être aujourd'hui de parler d'hospitalité, même en Afghanistan, mais oui, il y a une hospitalité, il y a un respect de l'autre, ouais. Évidemment pas en zone taliban.
Et puis deuxièmement... Pardon, je vous interromps, mais l'Afghanistan c'est vraiment un pays que vous connaissez extrêmement bien. Vous avez été ami avec le commandant Massoud, vous êtes aussi allé sur les traces de Kessel, qui connaissait aussi bien l'Afghanistan, donc pour vous c'est vraiment une terre dont vous parlez en connaissance de cause.
Ça fait 25 ans ou même plus que j'y vais, y compris avec les combattants anti-talibans et les combattants du commandant Massoud, et puis j'ai écrit quelques romans, quelques récits de voyage, donc c'est un pays qui ne vous laisse pas indifférent. Soit vous détestez, vous avez le droit de détester, soit vous aimez, mais à l'excès, et peut-être un peu comme moi. En tout cas, il y a cette parole d'homme, il y a ce sens de l'honneur qui est dans les yeux, en fait, des hommes et des femmes d'Afghanistan, et ça, c'est ce qu'Ella Maillard aussi a pu voir. Et on trouve aussi, sur la route de la soie, ces fameux caravanserai en persan, donc ces espèces d'auberges qui sont distantes encore aujourd'hui, évidemment, ça n'a pas bougé, de 40 km. Pourquoi 40 km? Parce que c'est grosso modo la distance qu'on franchissait à l'époque en une journée. Et puis le soir, à 5-6 heures, il fallait s'enfermer avec les bêtes. Et entre nous, c'était toujours les différentes religions. C'est comme cela que le bouddhisme aussi a pu dialoguer avec l'islam, le christianisme avec d'autres religions, etc., voire aussi le judaïsme à un certain moment, parce que c'était dangereux que de s'aventurer au-delà de la périphérie de ces caravansérails. Et donc, Ella Maillard a vu cela aujourd'hui sur la route de la soie, dont l'esprit transpire encore aujourd'hui. Sauf qu'un jour, elle a perdu ses brodequins. Elle était dans une toute petite auberge. On lui a volé ses brodequins.
Et donc, ses bottes, c'est ça, ses brodequins.
On ne sait pas trop. Et donc, ce sont ses bottes fourrées. On ne sait pas trop qui lui a volé. Peut-être un nomade kazakh qui était à côté, dans la petite auberge minuscule. Dehors, il y avait de la neige partout. Donc, c'était la mort assurée. Et passe une caravane quelques heures après, au loin, dans la brume. Et donc, ces autres nomades lui sauvent les pieds et la vie en même temps.
Ouais, voilà. Elle a été sauvée par ces nomades qui déjà la fascinaient, et c'est eux qui lui ont sauvé la vie. Elle écrira à propos des nomades: leur instabilité m'attire, je la sens mienne comme celle des marins, ils vont d'une escale à l'autre, partout et nulle part chez eux, chaque arrivée ne marquant somme toute qu'un nouvel appareillage. Elle est fascinée par ce mouvement perpétuel des nomades. Elle a envie de les imiter.
Oui, absolument, c'est le mouvement perpétuel d'une part, comme disait Aragon, mais aussi pour elle, pour l'entre-deux-guerres, et aussi après pour sa compagne Anne-Marie Chosin-Barre, l'envie de quitter la folie de la guerre qui s'annonce et des barbaries. Et le livre, donc, c'est à la fois une biographie, mais aussi un récit de voyage, puis un essai sur le nomadisme, parce que je crois qu'on a aussi tous en mémoire, qu'on soit sédentaire ou pas, urbain ou rural, la mémoire de nos origines, le nomadisme, et on est toujours un peu nostalgique de cette possibilité du voyage et de ce mouvement perpétuel que vous évoquiez. Donc, périodiquement, il y a dans l'histoire de la littérature, mais aussi dans l'histoire tout court, une réminiscence de cela. Ça peut arriver par les livres, par le cinéma, mais on a besoin de cela. On a besoin de ce mouvement, de ces nomades, etc. Il ne faut pas qu'ils meurent. Et ce que recherchait la Maillard, ce que je recherche aussi auprès d'eux, de ces nomades d'Asie centrale, mais aussi d'ailleurs, c'est une sorte, je dirais pas de bonheur, ça sera angélique que de dire ça, mais c'est un vrai retour aux sources et aux origines qu'on peut trouver dans l'hospitalité de nomades.
Mais elle s'interrogeait aussi, alors c'est venu par la suite, parce qu'effectivement, elle y a réfléchi à tous ces voyages qu'elle a menés et elle s'est interrogée sur ces relations qu'elle a nouées avec les gens, sédentaires ou non d'ailleurs, hein, aussi bien nomades que les villageois. Elle se demandait aussi ce que ça avait changé pour eux, ces Occidentaux qui, comme elle, venaient à leur rencontre. Ça provoquait certains déséquilibres. Écoutez-la en parler.
Quand vous arrivez pour la première fois dans un village, vous êtes le premier pollueur. Vous leur apportez des envies, tout ce que vous touchez. Les boîtes d'allumettes, j'étais dans des villages où je n'avais jamais vu une boîte d'allumettes. Tout était capable d'éveiller leur curiosité. C'était gentil, ça faisait un moyen de correspondance, de conversation entre nous. Mais ces gens ne sont pas bêtes. Ils se disaient, tiens, mais j'aimerais bien avoir une boîte d'allumettes. Donc tout ce que l'étranger fait en arrivant quelque part est en train de disloquer leur équilibre parfois. Parce que j'ai une définition du bonheur. Le bonheur, c'est quand vous êtes en harmonie avec tout votre entourage, mais quand il y a quelqu'un qui arrive avec quelque chose que vous n'avez pas, il se dit, tiens, pourquoi pas moi ?
Bon, d'autres voyageurs avaient le sentiment, contrairement à vous, d'apporter la civilisation. Vous aviez le sentiment d'apporter la pollution.
Attention ! J'ai pris 20 à 30 ans pour comprendre. Ce que je vous dis maintenant, je ne le pensais pas du tout à ce moment-là.
Nous étions dans les années 80 hein, quand Ella Maillard donne cette interview, mais je trouve son discours d'une modernité et d'un recul sur ses voyages. Elle n'est pas dans l'angélisme, mais elle a du recul sur ce qu'elle a apporté et peut-être sur les déséquilibres que son envie d'aller rencontrer a pu apporter.
Oui, tout à fait, il y a un côté yin et yang, on va dire, dans sa pensée. Elle avait toujours un petit peu la perception de ce que pouvait... provoquer le voyage, la rencontre. Donc elle était pas rentre dedans, elle était vraiment très attentive, précautionneuse de la rencontre avec l'autre. En tout cas, c'est ce que j'ai pu ressentir en rencontrant différentes personnes jusqu'en Inde qui l'ont connue, et puis en lisant évidemment ces milliers de pages. Donc elle était en avance, et je crois même qu'au niveau de l'écologie, elle était en avance. C'était vraiment le moins de pollution possible, même si évidemment, de temps en temps, je ne pouvais pas l'éviter. Et donc ça, c'est important, parce que elle a commencé à voyager, on le disait tout à l'heure, à la fin des années 20, les années 30, les années 40, etc. Donc c'était quand même assez novateur. Mais elle voulait aussi se déplacer avec le moins de pollution possible. Donc c'était souvent à pied, etc. C'était
alors très peu d'argent, très chichement.
Tout à fait. Elle faisait presque la manche auprès des nomades pour manger quelques bols de riz ou de sorgho en Chine ou ailleurs, etc. Donc c'était quelqu'un de rugueux. Ça lui servait quelquefois, parce qu'un jour elle était sur un camion avec un Kazakh au fin fond du Kazakhstan, puis il est un petit peu trop entreprenant, et elle lui fait comprendre qu'elle est plus forte que lui, et elle est plus forte que lui, effectivement, comme disait Nicolas Bouvier, elle est robuste.
Oui, et bien elle avait fait les Jeux Olympiques, ne l'oublions pas, cette Ella Maillard. Alors elle part pour rencontrer, elle est aussi reporter, hein, vous l'avez dit, pour le journal Le Petit Parisien. Elle va se lancer d'ailleurs pour ce journal dans un périlleux voyage en Mandchourie. À cette époque, les relations sont conflictuelles entre la Chine et le Japon. Il y a cet état un peu fantoche, le Mandchoukou. Voilà, Mandchoukou. C'est tenu par le Japon, en fait, hein, cet état. Et c'est dans cet état qu'elle doit se rendre. Elle ira pas seule, hein, d'ailleurs, en Mandchoukou.
Elle ira pas seule. Elle y va avec un personnage extraordinaire, s'appelle Peter Fleming, qui est un bon écrivain, qui est journaliste. Et en même temps un peu espion. Et d'ailleurs son frère s'appelle Ian Fleming, ça vous dit quelque chose ? L'auteur, enfin donc le père de James Bond.
Et s'est peut-être inspiré de la vie de son frère pour créer
un petit peu, parce que tous les deux faisaient du renseignement, et Ian Fleming dans le renseignement naval. Et donc ils partagent, Ella Maillard et Peter Fleming britannique, la même tante, on se tient chaud, hein, donc ils vivent une histoire quand même ensemble, et puis ils finissent par s'engueuler.
Oui, ils ont l'air de pas, c'est pas le grand amour.
C'est pas le grand amour.
L'un et l'autre vont écrire dans leurs journaux, pas forcément des gentillesses.
Tout à fait. Une relation de circonstances et de compagne ou de compagnons de route, et ils vont s'engueuler, ils se séparent au Cachemire après 7 mois d'aventure. Mais comme vous le disiez, ils partent du Mandchoukou, qui est l'état fantoche du Japon, avec l'empereur Puyi, et ils passent par la Chine des seigneurs de la guerre. C'est très compliqué. Quand elle arrive au Cachemire, où il fait très froid, parce qu'ils passent par des montagnes et des cols de 5-6 000 mètres, eh bien, elle tombe chez les Ismaéliens. On peut aller dans les mêmes endroits, la vallée de la Hunza, je suis retourné il y a encore peu de temps, et là, chez les Ismaéliens, on boit de l'alcool. Et tout d'un coup, elle raconte ça dans un livre, réel. Il y a 7 mois de souffrance qui sont soulagés. Ça fait un livre assez beau qui s'appelle Oasis interdite. C'est pas le meilleur à mon avis, mais c'est un livre vraiment d'aventure et j'engage vraiment les jeunes auditeurs à le lire pour partir à l'aventure en Asie centrale ou ailleurs, parce que l'aventure est encore possible aujourd'hui.
Ouais. Ces voyages en Asie vont vraiment la changer profondément, hein, vont la marquer. Oui. Elle écrit « Je n'étais plus uniquement suissesse ou européenne, je me sentais liée au monde dans son ensemble et j'avais l'impression que je ne serais plus jamais tout à fait chez moi à Genève. »
Oui, absolument. C'est aussi cette volonté de communier avec le monde. Elle disait « La terre m'appartient », mais c'était pas, comment dirais-je, une appartenance matérielle, c'était pas un sens possessif, c'est-à-dire voilà, nous sommes ensemble dans une communion fraternelle. Et effectivement, elle voulait ramener, en même temps, elle voulait rapporter, hein, d'où le mot de reporter, mais aussi, elle était écrivain. Et ça, c'est important, avec quand même une certaine distance. Et par rapport à ce que vous disiez à l'instant, là, il y avait une sensation inconsciente, une volonté d'harmonie. Et elle va rencontrer dans les ashrams des gourous, des maîtres spirituels, pas forcément hindous, pas forcément religieux, plutôt laïcs, on va dire, œcuméniques en tout cas. Et ça, ça va la transformer, effectivement.
Ouais, ouais. Donc, ça veut dire, effectivement, ensuite, les ashrams, ce sera en Inde. Hein. On va y arriver d'accord. Dans un instant. La suite des aventures d'Ella Maillard, elle va nous conduire en Inde alors que la seconde guerre mondiale éclate. Ella Maillard fuit l'Occident et part en quête de sens, chercher la sagesse, loin de la vieille Europe, à feu et à sang. Vous allez nous raconter cette quête de spiritualité dans un instant. Olivier Weber, Le Temps d'un Bivouac sur France Inter. C'était Maya Sushilaraman sur France Inter, Le Temps d'un Bivouac.
Il n'y a rien de tel que de voyager pour apprendre à se connaître. Et plus on voyage, plus on se connaît sous différentes latitudes en se comparant à d'autres. Il faut prendre le bâton de pèlerin
et partir à la découverte de soi-même. Ça, j'en suis persuadée. La plupart des gens ne cherchent pas. Je sais pas ce qu'ils attendent. Parce que c'est difficile de trouver quelque chose qu'on ne sait pas. Tout le monde cherche un équilibre et un bonheur. Ça, je suis persuadée.
De nouveau la voix d'Ella Maillard. Nous sommes toujours avec Olivier Weber, auteur d'une biographie d'Ella Maillard aux éditions Payot, intitulée « Je suis de nulle part ». C'est après ce bonheur, cet équilibre qu'Ella Maillard est sans cesse en train de courir.
Oui, elle a raison de dire qu'il ne faut pas s'oublier soi-même quand on va à la recherche de l'aventure, quand on veut explorer, et on peut encore explorer aujourd'hui. Il y a des territoires non pas vierges, mais des terrains qu'on ne voit pas vraiment. Et je pense qu'il faut ouvrir les yeux, partir avec le cœur grand ouvert, j'allais dire. Et c'est ce qu'elle fait. Et elle va vers l'autre, ou les autres, et en même temps, elle ne s'oublie pas, elle cherche une sorte de plénitude, d'harmonie. D'abord inconsciemment, puis après consciemment par la démarche spirituelle. Et je trouve ça très beau, parce qu'au lieu de partir avec des préceptes et des manuels de spiritualité sous le bras, elle va les trouver de manière pragmatique. Et voilà, jusqu'à l'Inde et jusqu'à la Chine.
Son besoin de spiritualité va devenir encore plus pressant en 1939, hein, alors qu'éclate la Seconde Guerre mondiale. C'est un peu comme si elle fuyait l'Europe et puis ses guerres, cette guerre. Et qu'elle allait se réfugier dans la sagesse de l'Orient.
Oui, parce qu'elle sent que ça va basculer. Elle avait donc 15 ans quand la première guerre, la DDR 14-18 a fini, elle était suisse, donc neutralité oblige, mais elle lisait un livre par jour à l'époque. Et elle a su ce que c'était que la guerre des tranchées. Et elle a pressenti, en tant que Suissesse, genevoise, ce que la barbarie allait produire à nouveau. Et son amie Anne-Marie Schoenzenbach, avec laquelle elle va partir, pensait la même chose. Et donc elle part elle-même, donc en juin 1939, à la veille de la guerre en Europe. Mais ce n'est pas pour fuir, finalement, c'est pour se dire, bah, finalement, il y a d'autres domaines à découvrir, il y a d'autres richesses à rencontrer, et surtout d'autres nomades, et elle part vers l'Orient. Donc c'est à nouveau une grande route qui va durer 5 ans, cette fois-ci.
Donc cette fois-ci, elle est accompagnée donc d'Anne-Marie Schoenzenbach. Et là encore, finalement, elle voyage volontiers, accompagnée, mais ça ne se passe pas toujours très bien quand elle voyage accompagnée. Oui. Alors là, il y a des raisons pour lesquelles ça se passe mal.
Oui, alors là, ce sont des raisons sentimentales, non pas affectives, mais vraiment d'une amitié vraie entre cette jeune écrivaine suisse-allemande qu'Anne-Marie Schoenzenbach, qui était surdouée, qui est morte à 34 ans, et puis Ella Maillard. Et elles ont la même démarche, une démarche antifasciste, etc. Elles sentent bien, encore une fois, que les totalitarismes vont faire saigner toute l'Europe. Et Anne-Marie Schoenzenbach est merveilleuse, elle est attirée par l'Orient, elle connaît la Perse, elle y a vécu, etc. Elle s'y est mariée, bien qu'elle ait quitté son mari. Mais elle a un gros problème, c'est qu'elle est camée. Elle aime la drogue, elle est dans la morphine, la codéine, etc. Et ce que veut faire Ella Maillard, c'est la sauver en disant « je vais l'emmener ». Voilà. Vers l'Afghanistan, que je ne connais pas, je connais simplement l'Asie centrale, on ira peut-être plus loin, et ça va la sauver. Donc c'est une vraie démarche compassionnelle et empathique pour cette jeune écrivaine, qui est vraiment quelqu'un pour moi de surdoué, en tant qu'écrivaine, mais aussi en tant que photographe. Et puis ça marche pas. Ça ne marche pas parce que, depuis Sofia, la Bulgarie, donc elle part d'abord avec une très très belle voiture, qui est la voiture des parents, donc d'Anne-Marie Schoenzenbach, qui est une Ford V8 Roadster décapotable. Imaginez avec ces grands, oui. Vous voyez, les grands garde-boue, etc. Deux femmes qui partent comme ça, deux jeunes et belles femmes. C'est un peu compliqué, mais elles ont du courage. Le problème, c'est qu'à Sofia, Anne-Marie Schoenzenbach retombe dans la drogue, elle achète la codéine, et elle replonge encore à Téhéran et à Kaboul. On trouve toujours de la drogue, encore plus aujourd'hui qu'à l'époque. Et la Maillard n'en peut plus en disant, ça suffit, elle se fâche, etc. Elle voit bien que sa mission de rédemption thérapeutique, mais aussi amicale, affective, voire spirituelle, est totalement caduque. Donc elle se sépare ensuite. Et c'est un petit peu le voyage d'un échec. Ça va faire un très très beau livre, qui s'appelle La Voix Cruelle, qui est le plus beau à mon avis. Elles vont rester amies quand même, parce qu'elles vont s'écrire. Ce qui se passe, c'est qu'Anne-Marie Schoenzenbach rentre en Europe. Très bonne photographe. Elle avait déjà photographié la Grande Dépression, la crise des années 30. C'est des très très belles photos magnifiques. Et là, elle part au Congo avec les forces françaises libres. Elle revient, elle fait du vélo et elle tombe en Suisse. hémorragie cérébrale, 34 ans.
Après avoir parcouru le monde entier, c'est en Suisse sur un vélo qu'elle trouvera la mort.
Absolument, pratiquement reporter de guerre, c'est évidemment indirectement aussi l'effet collatéral de la drogue. Et la Maillard est très peinée, donc elle écrit La Voix cruelle, mais elle et la Maillard finissent sa route après cette séparation de facto donc à Kaboul, vers l'Empire des Indes britanniques et les Indes tout court dans un ashram en 1940. Alors,
un ashram, c'est-à-dire que là oui. On est vraiment au cœur de la spiritualité. Elle va rencontrer un sage, elle va y rester combien d'années dans cet ashram?
Au total, 5 ans, de 1940 à 1945. Elle attend la fin de la guerre parce qu'elle est bloquée dans l'Empire des Indes britanniques. Et elle rencontre un maître spirituel, Sri Ramana. Je suis allé dans son ashram, d'ailleurs, je revenais de la guerre du Cachemire, je suis descendu au fin fond de l'Inde, c'est au fin fond du Tamil Nadu, à 8 heures de route de Pondichéry et de Chennai, c'est-à-dire l'ancienne Madras. Et là, dans cette ville, Tirunelveli, c'est un petit peu dur à dire en tamoul, elle rencontre son maître spirituel, qui est vraiment peut-être moins un gourou, un yogi, qu'un maître philosophique, œcuménique, voire laïque. Et c'est la révélation, c'est un petit peu la révélation de toutes ces décennies de voyage. Oui. Elle est encore assez jeune, elle a 40 ans et quelques, mais ça fait plus de 20 ans qu'elle voyage. Et c'est la révélation pour elle.
C'est la révélation, sauf que on n'en sait pas grand-chose de ce qui s'est passé, parce que le livre qu'elle va tirer de ces 5 années dans cet ashram est assez inattendu. Elle raconte l'histoire de son chat, Typhus.
Oui, absolument, c'est assez étrange, parce que c'est comme si elle était un petit peu découragée de l'espèce humaine, et elle parle de Typhus, qu'elle emmenait un peu partout avec elle en Inde, y compris dans les montagnes, à 2000 mètres d'altitude, toujours dans ces montagnes du Tamil Nadu. Et c'est pas qu'elle est vraiment découragée par ce qui se passe dans le monde, mais il faut dire qu'on est en pleine guerre en Europe, mais aussi parce qu'elle recherche la sagesse. Donc elle parle en fait à l'au-delà, elle parle à ses vies antérieures et ses futures réincarnations, et elle est vraiment dans un mélange de spiritualité, de sagesse orientale qui vont du bouddhisme à l'hindouisme ou l'inverse. Et donc voilà, il faut le considérer plutôt comme un journal de bord, une démarche spirituelle et philosophique. Ouais.
Comment vous décririez l'écrivaine qu'était Ella Maillard, son style, ce qu'elle a apporté, une dizaine d'ouvrages d'Ella Maillard. Comment vous décririez
Je dirais qu'elle est assez proche de quelqu'un comme Joseph Kessel, parce que c'est un mélange entre du récit romancé, on va dire, ou romanesque, donc elle en rajoute un petit peu dans le décor, et puis bien sûr la description des faits. On n'échappe pas à son talent, n'est-ce pas, ou ses origines de journaliste, c'est pas vous qui allez me dire le contraire. Donc elle est quand même dans le factuel, elle a envie de rapporter, elle a envie de donner ses odeurs, ses impressions, le froid, la faim, etc. Mais en même temps, elle dit une chose, elle dit... Encore une fois, c'est quelqu'un de très rugueux. Quand elle est au fin fond de l'Asie centrale en 1930, elle est avec des chercheurs russes, puis les chercheurs russes la voient partir alors qu'elle a 42 fièvres, il fait moins 30 degrés, puis elle se tape un sommet de 5000 mètres avec des skis bricolés. Et à moins, elle se perd dans le brouillard, puis elle arrive à revenir. C'est un sommet qu'on fait en 14 heures, elle l'a fait en 7 heures. Donc c'est quelqu'un d'assez robuste et rugueux. En même temps, elle a dit un jour, à propos aussi de ce voyage en Inde, il n'y a rien de pire que les souffrances morales, les affres, les tourments intérieurs, bien pire que la pauvreté et la souffrance physique. Donc elle savait faire abstraction de son corps, finalement, de ses souffrances, pour aller vers l'autre, pour l'empathie. Encore une fois, c'était son amie Anne-Marie Schossenbach qu'elle faisait parler, mais aussi par compassion. Je crois que c'était sincère, c'était une vraie démarche.
Vous parliez de cet ouvrage, Voix cruelle, qu'elle a écrit suite à sa dispute et à cet échec avec son amie Anne-Marie. Je vous propose un texte de cet ouvrage, Voix cruelle, lu par Ella Maillard elle-même.
Nulle part ailleurs, je n'ai écouté avec plus d'intensité le ronflement de la brise déchaînée descendue des grandes montagnes. C'était peut-être parce que j'étais libérée de ma fièvre de voir le pays caché par l'horizon. Lhasa ou Papeete aurait, je crois, pu surgir devant moi sans que mon cœur se serre d'émotion. Je n'étais plus fière d'avoir réussi par mes seuls efforts à transformer le monde en un terrain de jeu à ma merci. S'il n'y avait pas eu deux hommes qui tissaient à quelque distance, je serais tombée à genoux pour remercier mes yeux de si bien voir.
Ella Maillard, lisant donc un extrait de son livre Voix cruelle, qui relate son voyage de Genève à Kaboul. Elle parle de ce qu'elle voit, elle parle de ses yeux. On a encore très peu parlé dans cette émission de... Elle était photographe, Ella Maillard, donc de son talent de photographe. Oui. Elle a laissé énormément de photographies, dont elle a fait don à un musée en Suisse.
À un musée en Suisse, absolument, à Lausanne.
Le musée de l'Élysée. Quelle photographe était-elle ?
C'était une très bonne photographe. Alors, je ne sais pas pourquoi elle avait un talent à cadrer, mais aussi à mettre de l'humain dedans. Jack London faisait pareil lorsqu'il était correspondant de guerre en 1904 en Corée. Je crois aussi que c'était des êtres surdoués. Mais c'était peut-être davantage la volonté d'aller chercher le regard de l'autre, l'étincelle au fin fond de la pupille. Et non seulement elle a rapporté beaucoup de photos, donc des milliers de clichés, on parle de 10 000 au total, mais aussi un petit peu de pellicule. Vous parliez de ce voyage en Afghanistan, oui. La Voix cruelle, et elle a emporté avec elle une petite caméra. C'est très drôle parce que ce sont pratiquement des images qu'on peut voir aujourd'hui de nomades. Alors, les Bouddhas de Bamiyan, malheureusement, ont disparu. J'ai eu la chance de les voir.
Ces fameux grands Bouddhas en Afghanistan que les talibans ont détruits. Il ne reste plus que des trous dans
absolument.
La montagne.
Et moi, j'ai vécu avec les talibans pour un livre sur eux, d'ailleurs, et j'ai eu la chance de voir ces Bouddhas. On savait qu'ils allaient être assassinés. Moi, je parle d'un assassinat. Et c'était une première rencontre, c'est pas un cliché entre l'Orient bouddhique et l'Occident, l'Occident hellénistique, que Ella Maillard avait perçu et ensuite, sur ses traces également, Joseph Kessel. Et pour revenir à votre question, photo magnifique, cadre de l'image avec ses petites pellicules, on va dire, de 3 minutes, magnifique également. Je crois qu'il y avait un talent à cadrer l'humain. Donc voilà, on peut voir aussi ces photos, on peut aller à Lausanne, on peut les retrouver dans quelques livres, c'est surprenant.
Alors une vie très remplie, on l'entend en vous écoutant, quelques manques aussi, hein. Pas de grand amour, alors il y a eu ces quelques histoires qu'on a évoquées, notamment avec Fleming, mais pas de grand amour, ça lui a manqué, elle le regrettait.
Ça lui a manqué, oui et non, parce qu'à la fin, à partir du moment où elle s'est installée à Chandon, un petit village à 2000 mètres d'altitude au fin fond de la Suisse, où je me suis rendu à différentes reprises pour ce livre. En face de Montsermat, c'est magnifique. Elle restait à peu près 6 mois par an, donc pendant les 50 dernières années de sa vie, puisqu'elle est morte en 1997 à 94 ans quand même. Ça conserve le voyage, même le froid et la chaleur. Eh bien, non, elle disait finalement que ça faisait partie de sa vie. C'était aussi le tribut à payer, le prix à payer pour ses voyages, cet abandon du domicile, mais aussi le retour permanent. Donc, elle s'est un peu reconvertie dans l'amour des autres, on peut le dire comme ça.
Pas d'enfant non plus. Je vous propose de l'écouter évoquer l'intensité du regard d'un bébé.
Le regard d'un bébé qui s'ouvre à la vie, après ce que m'ont dit les sages, est une chose bouleversante. Je n'ai pas eu d'enfant, je n'ai pas eu ce regard qui vient vraiment de l'absolu, parce que l'enfant n'a pas encore d'ego. Il n'a pas encore compris qu'il est quelque chose de séparé du cosmos. Et puis après, on lui dit, tu es un enfant, et tu t'appelles comme ça, faut pas dire il. Et les sages m'ont fait comprendre ce que c'est que le regard, la lumière de perception, le seul inchangeant chez vous et chez moi. Et cette lumière de perception, on peut l'appeler le Saint-Esprit, le mot est galvaudé à mon avis, mais c'est la chose qui est la base de tout. Et je n'ai pas eu de bébé pour jouir de ce regard absolu avant que l'ego soit fabriqué.
Ella Maillard ne se livrait pas facilement. Alors là, elle était en train de faire part d'une théorie. Elle dit que les sages lui ont appris sur le regard des bébés. Mais au détour de sa théorie, il semble poindre un regret quand même. Je n'ai pas eu d'enfant, je n'ai pas connu cette intensité de regard.
Oui, parce qu'elle aimait beaucoup les enfants. Elle les voyait quand même au Népal et en Inde lors de ses voyages. Qu'après, elle était accompagnatrice de voyages culturels, surtout l'hiver. Et les était-elle passées à Chandelan en Suisse. Donc. Et oui, parce que il y avait une volonté de transmission, je pense foncièrement, charnellement de sa part, et elle a compensé cette carence, ce manque, ce vide sidéral, pratiquement ce qu'on le sent, y compris dans cette interview, par cette quête constante de sens. Et donc ça, c'est important, c'est sûrement son héritage, c'est sûrement son enfant de la littérature.
Suite et fin de notre voyage sur les pas d'Ella Maillard en compagnie d'Olivier Weber, Le Temps d'un bivouac sur France Inter.
Hark, hark, my friend. cannon thunders are swelling. Hark, hark, my friend, cannon thunders are swelling. Over earth's green fields and ocean's wave-beat shore, how terrible the truth those fierce thunders are telling of that battle where enemies shall be no more. Onward we go, for still we hear them thundering. Soldiers, come, for our leaders bid you come. And through the dark it echoes loudly ringing. The results of battle leads us home. Far, far away, like the judgment of evening pealing, the voice of conflict sounds over land and sea, and land vessels by thousands swiftly sinking. Fierce but were the terms that dreary waves to be. Rest comes at last, though fight be long and dreary. The day must dawn when darksome storms be past, and conflicts end with welcomes to the weary, and at Werther the nation's true home will come at last.
My Friend Cannon Thunders Are Swelling, chanté par Philippe Cohen-Solal, Mike Lindsay et Adam Glover sur France Inter dans le temps d'un bivouac. La programmation musicale de cette émission est signée Muriel Pérez.
Je m'attache de plus en plus à cet endroit où je suis extrêmement heureuse et où j'apprécie l'eau pure, l'air pur. Malheureusement, quant à moi, on a construit une grande route automobile en 1960. Au lieu de venir à pied, on marchait 50 minutes à travers la forêt de Mélèges depuis Saint-Luc et on arrivait ici comme dans un paradis tout à fait solitaire. Mais j'aime faire partie du vent, du soleil et de la nature.
Et la Maillard, parlant de Chandelin, dont vous nous parliez, hein, Olivier Weber, cet endroit où elle passait sa vie en Suisse quand elle ne voyageait pas, et cet endroit où elle a passé ses derniers jours aussi.
Oui, absolument. Dans ce petit chalet de bois, on imagine vraiment la cabane au Canada ou le chalet suisse, et tout à fait ce dans quoi vivait la Maillard, avec donc un feu de bois, etc. Et ça lui rappelait aussi finalement les séjours au fin fond de l'Asie centrale, parce qu'elle a connu aussi là-bas des montagnes élevées, des 1000 mètres d'altitude.
Alors elle est morte en 1997, hein, à l'âge de 94 ans. Elle aura vécu longtemps et intensément. Je vous propose de retrouver son ami, l'écrivain voyageur Nicolas Bouvier. Il raconte son enterrement.
Sa mort était une splendeur, si on peut appeler ça comme ça. c'est une femme qui est presque toute sa vie à barrer son existence comme elle la souhaitait. Pour sa mort, elle avait tout prévu. Elle souhaitait une chose, c'était de mourir chez elle, parce qu'elle craignait fort la déchéance physique, étant extrêmement coquette, ce qui est une des grandes vertus que je lui reconnais. Et elle est morte effectivement à 2000 mètres d'altitude, dans son chalet, parfaitement consciente. Je crois que quelques instants avant sa mort, elle a dit à la personne qui l'accompagnait « I'm going to die very soon », parce que tout d'un coup l'anglais lui est revenu, qui avait été sa première langue. Et à ses funérailles, il n'y avait pas grand monde, parce qu'il fallait monter très haut. Hein. Grand beau temps, vue splendide, personne n'avait la larme à l'œil. Et l'Église nous a épargné ses gémissements habituels, dont elle aurait eu horreur. Et puis on a répandu ses cendres, ça faisait quelques poignées, et tout le monde était très content, en se disant « Ella est morte comme elle a vécu ».
Nicolas Bouvier, ne cédant pas à la tristesse face à la mort de son ami Ella Maillard. Olivier Weber, il est déjà l'heure de se quitter, mais un ou deux ouvrages à nous conseiller si on veut découvrir Ella Maillard.
Oui, je dirais Oasis interdite et puis La voix cruelle. Il y a aussi dans cette petite collection Payot des très belles préfaces de Frédéric Vitoux et de Michel Lebris. Michel Lebris, éditeur, fondateur de ce beau festival étant voyageur qui a fait redécouvrir dans les années 90 Ella Maillard. C'est grâce à lui qu'on a pu avoir la réédition de ces très beaux livres.
Merci Olivier Weber. Je rappelle Merci le titre de la biographie d'Ella Maillard que vous signez chez Payot, Je suis de nulle part. Et puis je signale aussi votre dernier livre intitulé Frontières chez Paulsen. Un grand merci à vous.
Merci.
Le temps d'un bivouac replie sa tente. Vous pouvez réécouter cette émission et les précédents épisodes en podcast. Merci pour vos messages sur la page Facebook ou sur la page de l'émission sur franceinter.fr. À demain pour de nouvelles aventures. Et bonjour Fred Sigrist.
Bonjour Daniel.
Au programme de Blockbuster dans un instant avec vous.
Ah bah aujourd'hui on va parler jeux vidéo parce que vous savez que j'aime ça. Et on va parler d'aventure et de jeux vidéo avec le jeu vidéo Uncharted.
Très bien, vous savez qu'en jeux vidéo, mais alors je suis nul de chez nul, j'ai dû m'arrêter à Arkanoid et Pac-Man.
Mais c'est bien pour ça que vous travaillez à France Inter.
je vais prendre des sessions de rattrapage avec vous dans un instant.